Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
C'est M. Montesquieu encore qui a dit que une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Alors imaginez une heure avec Clotilde et ses invités sur Canal M à l'émission À livre découvert. Ouh là là.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, à cette heure, pendant cette heure des livres découverts, nous allons accueillir une nouvelle voix. C'est Louise Bélanger qui sera bientôt en ligne avec moi pour nous parler d'un livre de Martin Michaud. Je reçois cette émission Dominique Fortier. Oui, c'est un nom qui vous dit quelque chose parce que d'une part, vous avez entendu ici même un de ses livres lus sur Canal M et nous avons reçu il y a quelques semaines Catherine Trudeau qui est venue nous parler du bon usage des étoiles. C'est ce qui m'a donné envie de mieux connaître Dominique Fortier. Le classique de la semaine, c'est une suggestion d'ailleurs de Dominique Fortier, c'est L'homme qui rit de Victor Hugo. Et puis nous accueillerons Micheline Tremblay, qui est devenue une habituée quasiment, bénévole de cette émission et bénévole lectrice aussi depuis maintenant plusieurs années ici chez Vues et Voix. Un petit teaser, une petite bande-annonce pour vous annoncer que la semaine prochaine, je vais recevoir Thibaut Temmerman, qui est un autre bénévole qui va nous parler de l'ultime partie de Anna Shevchenko. Et puis, on évoquera la mort de P.D. James. Et bien sûr, on terminera l'émission par quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Louise Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Je suis très heureuse parce que, d'abord, on manque de femmes à cette émission-là. On manque de femmes chroniqueuses chez les abonnés du SQLA. J'ai beaucoup d'hommes, j'ai pas beaucoup de femmes. Je suis tellement contente, Louise, d'en avoir, oh, entre guillemets, pogné une autre.
Mais oui, pourtant, les femmes sont des grandes lectrices.
Mais oui, mais elles n'osent pas. Elles ont peur.
Eh bien, disons, je vais avoir osé.
Est-ce que vous êtes du genre aussi à avoir peur et à ne pas oser? Non, la preuve, puisque vous êtes
non,
là.
Non, habituellement, je ne suis pas trop peureuse. C'est quand même pas si mal.
Est-ce que vous écoutez beaucoup de livres audio?
C'est-à-dire que moi, j'ai deux modes de lecture, surtout depuis que j'ai un iPad. Je lis des livres en imprimé sur mon iPad parce que je peux grossir le caractère.
Ah, super.
Et j'emprunte aussi des livres lus dans les bibliothèques adaptées. Oui. Et j'en emprunte aussi dans les réseaux des bibliothèques de la Ville de Québec. Il y a 2000 livres lus.
Ah, c'est formidable.
Grand public, qui sont grand public, mais qu'on peut quand même emprunter aussi, là. Oui. Et les verser dans notre lecteur, dans notre stream, sans problème, là.
Okay.
Ça rouvre les horizons, disons, là.
Mais oui, absolument.
Ça pourrait même être quelque chose d'intéressant à traiter dans des futures émissions pour vous.
Oh mon Dieu, oui, mais vous savez, tous les sujets dont on pourrait traiter, mais on voudrait surtout pouvoir traiter de bouquins, quoi, que les gens sachent exactement quels sont les livres qui sont disponibles, parce que c'est la plus grande demande qu'on nous fait, finalement.
Ben oui.
Alors, Louise Boulanger, vous nous appelez de Québec?
Oui, c'est ça.
Et vous vouliez nous parler aujourd'hui d'un livre de Martin Michaud?
Oui, qui s'appelle « Sous la surface ».
Oui.
« Sous la surface »,
c'est un polar, hein?
Oui, c'est un polar. Uh-huh. Martin Michaud a publié, en plus de collaborations spéciales avec d'autres auteurs, 5 romans policiers.
Oui.
Son 5e qui vient d'être publié a eu des excellents commentaires dans la presse du 29, la presse plus,
oui,
de Michel Tremblay, qui l'a qualifié d'un des meilleurs livres qu'il avait lu cette année.
Absolument.
Il l'a comparé à Henning Mankell.
Oui. Est-ce que vous vous souvenez du titre de son
violence
dernier?
Violence à l'origine.
Voilà, exactement. Et ce livre-là, d'ailleurs, va être lu, mais malheureusement, je le dis tout de suite pour les auditeurs, ça vient de sortir. Alors, ça va prendre quelques mois.
Oui, le livre n'a même pas à peu près un mois de publication.
C'est ça. Mais l'autre, par contre, sous la surface, celui dont vous nous parlez, il date quoi, d'il y a
un an.
OK.
Habituellement, dans ses trois premiers et son dernier volume, il met en scène un enquêteur de la police de Montréal. Mais aujourd'hui, avec Sous la surface, on s'en va dans un tout autre univers. On s'en va à Lowell, Mass, lors des élections primaires américaines, le Super Tuesday, qui va se dérouler le 29 février 2016.
Oui, oui, oui.
Il faut croire qu'il y avait une bonne boule de cristal, puisqu'on est déjà rendu en 2016.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et nous sommes donc à Lowell. C'est où, ça?
Lowell, c'est au Massachusetts.
Ah, OK, d'accord.
C'est la ville d'origine de l'écrivain Jack Kerouac. D'ailleurs, Martin, dans son livre, fait un clin d'œil à Jack Kerouac, puisqu'il a nommé l'hôtel où descendent nos différents protagonistes, l'hôtel Kerouac.
Okay.
Et c'est la ville où, pendant des décennies, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les Québécois allaient travailler dans les filatures de textiles.
Ah oui, OK,
c'est
OK, OK.
Les tyrans du pouvoir, là.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Dites-moi, je voudrais tout de suite vous demander, parce qu'il y a un lecteur qui, à un moment donné, qui dit, j'ai trouvé ça sur Internet, quand j'ai vu que c'était un polar sur fond d'histoire politique, je me suis dit, j'irai pas dépenser d'argent pour ça. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort?
Il n'a pas raison. En fait, le roman, oui, on pourrait le traiter de thriller politique ou de suspense politique, mais dans le fond, quand on regarde un petit peu plus loin. Moi, je vous dirais qu'en même temps, c'est un roman d'amour, mais qui n'est pas un roman harlequin à l'eau de rose, loin de là.
Non, OK. Ben alors qu'est-ce
qu'il
fait là?
On lit le livre deuxième degré, dans le fond, c'est probablement plus, peut-être plus un roman d'amour, mm-hmm. ou du moins tout autant. Parce que, dans le fond, le but du roman, vous pouvez vous douter qu'à l'arrière, c'est des grands principes politiques. Ah, nous vivons dans des démocraties, tous les citoyens ont le droit de vote, mm-hmm. tout le monde est égal et tout là. Ben, en dessous de ça, justement, comme le titre dit, sur la surface, il y a beaucoup d'autres réalités où des ficelles sont tirées, où ça grenouille, se cribrouille. On pourrait même dire que les grenouilles ont parfois des airs de monstres du Loch Ness.
Oui, c'est ça. Parce qu'au départ, tout est tranquille, mais c'est ça. Mais sous la surface, ça grouille et à un moment donné, voilà, l'ouragan arrive hein, pour chaque personne. C'est ça. Pour chaque personnage, hein, je pense que tout d'un coup, leur vie explose.
Oui,
c'est bien
en
ça?
En fin de compte, je vous disais, c'est le Super Tuesday, mais le roman commence la veille du Super Tuesday. Notre protagoniste, qui s'appelle Lee Emmett, est dans un avion parce qu'elle s'en va justement à Lowell avec son mari qui s'appelle Patrick Adams, qui est le candidat démocrate pour les élections de l'automne d'après. Où on va élire, au Super Tuesday, on élit les représentants des différents partis pour ces élections-là. Oh,
moi, j'ai du mal à comprendre. Écoutez, là, j'ai essayé de regarder House of Cards, je comprends rien du tout, même en français. Oh, mais enfin, bon, je m'excuse de vous avoir interrompu, mais je ne sais pas, parce que, justement, moi, j'ai peur qu'on ne se retrouve pas, mais on se retrouve bien, hein, finalement.
Oui, oui.
Tout ça ne revêt qu'une importance...
C'est un petit peu... ça se déroule cette journée-là. On voit les élections, mais on ne vous amènera pas dans un bureau de vote à compter les bulletins. Là,
j'espère! OK. Alors, ils s'en vont tous les deux. Alors, Patrick Adams...
Elle n'est pas revenue, comme je vous disais, dans sa ville depuis 25 ans. Elle est dans l'avion. Elle reçoit un texto. T'sais, aujourd'hui, recevoir un texto, c'est pas un événement rare, là.
Non.
Mais sauf qu'elle, dans ce texto-là, lui rappelle... qu'elle avait donné le 20 octobre en 91, elle avait un petit ami qui s'appelait Chase et tous les deux sur un pont à Lowell, ils se sont jurés qu'ils se reverraient 25 ans plus tard sur la place des Vosges à Paris pour voir où ils en seraient rendus dans leur vie.
Ah.
Jusqu'ici, ça va, mais le problème, c'est que le fameux Chase en question est mort 25 ans plus tôt en voulant sauver une autre jeune fille de la noyade dans une voiture qui avait plongé sous l'eau.
Okay.
Ce qui a inspiré l'auteur à ce niveau-là, c'est en 1968, Ted Kennedy, le frère de Robert et de John, s'était retrouvé après un party dans une voiture où il y avait une jeune fille qui s'appelait Mary Jo Kopwickney. La voiture a plongé dans l'eau à Chappaquiddick. Ça, c'est au large des îles de Martha's Vineyard. Là.
Okay.
Et ça avait fait un scandale à l'époque parce que il n'y a pas que secouru la jeune fille. Elle est morte. Il a pris du temps à appeler la police. Puis en plus de ça, ce n'était pas sa femme. Et monsieur était marié.
Ah oui. Mais on se souvient ici, autour de moi, en tout cas Micheline Tremblay, qui est là, opine du bonnet, puis dit oui, je me souviens bien de cette affaire-là, oui.
Fait, disons que ça, c'est vraiment l'événement de base du roman. Fait que par la suite, on va avoir plein de rebondissements, comme si on était dans une espèce de jeu de serpent-échelle. Mm-hmm. On ouvre un chemin, mais il n'aboutit pas où on pense, ou on se ramasse à un autre endroit. Puis en plus de ça, les personnages, c'est vraiment, on disait, sur la surface, c'est un peu comme la surface de l'eau. C'est votre image chemire dans l'eau d'un lac. Mm-hmm. C'est toujours vous, mais l'image change.
Les personnages,
là, on ne sait plus, est-ce que c'est lui le bon? Est-ce que c'est lui le méchant? Okay. Il est tous les deux à la fois.
Bon.
C'est une continuelle mouvance à ce niveau-là. Convient qu'on ne sait vraiment plus quoi penser, là.
Mais en tout cas, apparemment aussi, parce que j'ai lu plein de très bonnes critiques où on dit que dès l'instant qu'on ouvre le livre, on n'est plus capable de le refermer. Vous êtes d'accord avec ça aussi?
Oui.
Oui.
Parce que là, on se pose plein de questions. Pourquoi est-elle revenue dans sa ville natale?
Ah oui, c'est ça.
Est-ce qu'elle avait quelque chose à cacher?
Ah ah!
Et ce texto-là, 25 ans plus tard,
pourquoi
est-ce qu'il arrive, ce texto-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un, la personne qui a décidé de refaire ressurgir ça?
Mm-hmm.
Pourquoi elle le fait? Puis il n'y a pas beaucoup de gens.
Mais en tout cas, on ne répondra pas. Il ne faudra pas, nous, aujourd'hui, que nous répondions à cette question.
Ah, non,
il va falloir que les gens courent. Voilà, c'est ça. Mais Louise.
Qui a intérêt à voir cet événement-là ressurgir ou qui ne veut pas qu'il ressurgisse?
C'est ça, exactement. La voix que vous entendez, mesdames et messieurs, est celle de Louise Boulanger qui, pour la première fois et non pas la dernière, participait à l'émission Un livre découvert et nous présentait de Québec le livre Sous la surface de Martin Michaud. Louise Boulanger, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir participé parce que, écoutez, vous savez que là, nous sommes le 17 décembre 2014. C'est la dernière émission originale de l'année 2014. Mission accomplie. Yeah!
Bon, je vais finir l'année avec vous.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, je me dis que c'est peut-être une bonne suggestion de lecture, ça, pour les fêtes, si les gens prennent un petit temps d'arrêt.
Ça peut être un bon roman à lire, agréable.
D'accord. Merci beaucoup, Louise. Je vous souhaite une belle journée, puis on se retrouve très bientôt.
Bonjour.
En 2015, au revoir.
À 2015.
Chapitre 2. L'invité spécial.
L'invité spécial, oui, c'est un nom qui circule quand même assez régulièrement sur Canal M, puisque l'un de ses livres, La Porte du Ciel, a été lu ici, je pense que c'était en été 2013, parce que nous faisons ça aussi, nous diffusons la lecture qu'en font les bénévoles ici. Bonjour Dominique Fortier.
Bonjour.
Alors, et votre nom en plus est certainement connu par les auditeurs, parce qu'il y a quelques semaines, nous recevions Catherine Trudeau. Lorsque je lui ai posé la question de quel livre voulez-vous nous parler, c'est vraiment un des premiers qui est sorti. Ah, Dominique Fortier, du Bon usage des étoiles, qui est votre premier, tout premier livre. Vous êtes toute jeune, Dominique, pour écrire des... Parce qu'en plus, ce sont des romans touffus. Oui, vous êtes vraiment toute jeune.
Mes romans sont jeunes. Moi, plus tant que ça, mais merci de le dire.
Non,
c'est gentil.
Ben non, vraiment.
Non, j'ai jamais été un jeune auteur. En fait, mon premier roman, je l'ai publié à 36 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai
la jeune quarantaine.
Voilà. Je rajeunis. Je suis rendue à 34. Voilà.
Alors, je voudrais d'abord tout de suite quand même qu'on souhaite un joyeux anniversaire à votre petite Zoé.
C'est l'anniversaire de ma fille et de ma mère, tout ça le même jour. Donc, bonne fête, Zoé. Bonne
Formidable.
Fête, mamie.
Et en plus, de vous entendre à la radio aujourd'hui, je trouve ça génial. Je voudrais d'abord, pour vous mettre dans l'ambiance, vous faire entendre quelques mots de Catherine Trudeau et de tout le mal qu'elle pense de ce livre que vous avez rédigé du Bon usage des étoiles. Catherine Trudeau, parlez-nous de ce livre.
C'est un livre formidable, bien sûr, sinon je n'en aurais pas parlé aujourd'hui, qui est le premier roman de Dominique Fortier, qui en a trois à son actif et qui sont les trois, je crois, dans la banque. Mais ici, aujourd'hui, je vous parle du Bon usage des étoiles. C'est un roman qui s'inspire de la dernière expédition de Sir John Franklin, qui est cet expéditeur britannique qui est parti en 1845 avec deux navires, 129 hommes d'équipage, 45 tonnes de nourriture à bord pour partir à la quête de la porte du Nord-Ouest, disons-le comme ça, donc pour le passage entre le Canada et l'Angleterre. Ils ont été, ces hommes-là, prisonniers des glaces. Donc, d'une part, il y a ça. Et pendant ce temps, en Angleterre, il y a Lady Jane Franklin, qui est l'amoureuse, la femme de Sir John, qui, elle, n'a pas de nouvelles de son mari pendant 3 ans et qui multiplie les balles et les thés et les causeries dans toute l'opulence qu'on peut imaginer de la milieu, du milieu du 19e siècle. L'opulence et la richesse et le sucré et le tout ce que vous voudrez, du thé anglais et tout ça. Donc, dans l'écriture de Dominique Fortier, il y a cette richesse-là qui, moi, je suis très sensible à ça. Je suis une fille qui aime les mots. Et ça, là, c'est truffé de ça. Il y a des phrases délicieuses qu'on a envie de lire et relire et relire. Mm-hmm. Et d'un autre côté, quand on revient dans l'Arctique,
oui.
dans la puissance la maladie, de l'hiver, la maladie, la douleur, le
on n'est plus dans le sandwich au concombre,
on est
là.
Plus... J'adore ça. On n'est plus dans le scone et la... Non, non, non. Alors, j'aime ce voyage. Moi, ce que j'aime quand je lis... C'est voyager.
Elle est délicieuse, Catherine. Qu'est-ce que ça fait, Dominique Fortier, quand on entend parler de ces mots comme ça?
C'est toujours un peu étrange.
C'est toujours un peu étrange.
On a l'impression d'entendre parler de quelqu'un qu'on connaît, mais qui n'est pas tout à fait soi. C'est un peu comme une connaissance lointaine. Ça fait très plaisir. Ça fait plaisir d'entendre dire que ces livres sont un voyage. C'est un beau compliment.
Ah, je suis très heureuse. Et c'est vrai que nous sommes contents ici parce que vos 3 livres, vos 3 romans ont été enregistrés. Et donc, je voudrais qu'on parle un petit peu plus, hein, nous, vous et moi. Et Micheline, si vous voulez intervenir, ne vous gênez surtout pas. Entre autres, il y a « Les larmes de Saint-Laurent ». Ce livre-là, de quoi s'agit-il?
C'est un drôle de livre. C'est un que moi j'appelle un roman dont on pourrait dire aussi que c'est 3 longues nouvelles. En fait, en tout cas, c'est un livre en 3 parties.
En 3 temps. Hein.
Dont les 2 premières se déroulent au 19e siècle, qui est une époque que j'affectionne particulièrement, faut croire. Et la 3e partie se déroule à Montréal maintenant. C'est la première fois en fait que j'écrivais sur un sujet contemporain, je dirais. Ça fait que l'écriture est différente.
Oui, parce que vous êtes beaucoup dans l'histoire, hein? Vous êtes beaucoup dans la recherche. Bon, preuve du bon usage des étoiles.
J'écris pas des romans historiques au sens traditionnel du terme, mais c'est vrai que pour moi, écrire, ça implique presque toujours de me replonger dans le passé. Donc, Les larmes de Saint-Laurent, donc c'est une sorte de triptyque. La première partie raconte l'histoire d'un homme, Baptiste Tibaris, qui est... l'unique survivant de l'éruption de la montagne Pelée au début du 19e siècle, qui a anéanti complètement la ville de Saint-Pierre en Martinique, une quarantaine de milliers de personnes donc, qui ont perdu la vie, et lui tout seul a survécu, ce qui en a fait une sorte de miraculé, et par la suite il est devenu un phénomène de foire. Il a même il s'est joint au cirque de Barnum & Bailey et a fait le tour de l'Amérique. Il était le survivant de l'apocalypse, donc c'est un peu son histoire à lui. La deuxième partie raconte l'histoire d'un mathématicien qui a réellement existé, qui s'appelle Edward Love, de qui j'ai presque entièrement inventé la vie. Ceci dit, j'ai gardé son nom parce qu'il était magnifique et parce qu'il a fait une découverte formidable qu'on appelle les Love Waves. C'est une sorte d'onde, en fait, particulièrement destructrice lors des tremblements de terre. Et moi, le fait que ça puisse s'appeler des ondes d'amour, ça me tue. Je trouve ça formidable. Et donc, j'ai essayé d'imaginer quelle avait pu être son histoire. Et la troisième partie, donc, présente 2 personnages dont on ne sait pas trop qui ils sont, ces 2 silhouettes qui se promènent sur la montagne. Des fois, j'ai l'impression que la troisième partie, c'est davantage l'histoire de la montagne, en fait. Le personnage principal, c'est un peu la ville de Montréal, puis au cœur de la ville...
Oui, parce que la montagne du Mont-Royal, là, on parle bien de celle-ci.
Celle-ci, il n'y en a pas d'autres.
Non, parce que comme on parle...
À Montréal, il n'y en a pas d'autres. C'est la montagne avec un grand M. Ouais. Et c'est l'histoire de cette montagne-là sur quelques mois.
Et vous n'avez pas imaginé que cette montagne était finalement un volcan?
Il y a beaucoup de gens, il y a une légende qui dit que le Mont-Royal est un ancien volcan. Ouais. Mais il semblerait que non, malheureusement. Non,
on n'a jamais trouvé aucun
cratère.
Non,
il n'y a pas de preuves.
Alors, Les larmes de Saint-Laurent de Dominique Fortier, qui, je vous le rappelle, si vous venez juste de vous joindre à nous, est mon invité aujourd'hui. Il y a aussi un autre livre que peut-être nos auditeurs ont entendu, c'est le livre À la porte du ciel. Alors là, on est en Louisiane, c'est bien ça?
Oui, dans le sud des États-Unis, à la même époque, ceci dit, encore au 19e siècle, à l'époque de la guerre de Sécession.
OK.
C'est l'histoire de 2 petites filles qui grandissent ensemble, une petite fille blanche et une petite fille noire que sa famille va recueillir, qui est traitée un peu comme une servante, pas tout à fait comme une esclave, qui a un drôle de statut un peu ambigu. Et donc, on a, je dirais, des très gros plans autour de ces deux personnages-là auxquels on s'attache un peu au fil des années. Puis on a des plans très, très larges où il est question de la guerre et du pays tout entier qui, à cette époque-là, était vraiment à feu et à sang.
C'est toujours là comme en filigrane, comme on dit.
C'est une toile de fond. Qui sert à camper le récit. Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre-là, en fait, ce sont des courtes pointes formidables réalisées par des femmes dans un petit village qui s'appelle Cheese Band. Des femmes qui ont commencé à les créer probablement à l'époque de la guerre de Sécession et qui ont transmis la tradition de génération en génération, ce qui fait que leurs descendantes aujourd'hui même continuent de créer ces œuvres-là qui sont absolument fabuleuses.
Justement, je voyais une critique que de beauté, d'intuition et d'originalité. Retrouvons-nous dans les courtes pointes de la Louisiane, vibrant hommage à ces artistes du quotidien qui, à force de courage et d'espérance, nous montrent la véritable signification de l'art. Art comme acte généreux, comme acte de résistance.
C'est vrai, parce que c'est des femmes, en fait, qui étaient dépourvues presque de tout. Souvent, elles étaient illettrées, mais elles étaient capables de fabriquer à partir vraiment des débris du quotidien, des pauvres restes, des œuvres fantastiques. Parmi celles, moi, qui m'ont le plus marquée, il y en a une qui est toute simple, qui est une courte pointe faite dans un camaïeu de bleu et... on pouvait lire dans le livre qui la présentait que c'était en fait tous les vêtements qui avaient appartenu au mari de la dame qui l'avait faite et qui était décédée. Oh là là. Mais tous les vêtements, ça voulait dire deux paires de jeans et une chemise.
Mm-hmm. Et donc, oh mon Dieu!
Ouais, son mari était mort et elle avait pris ce qui restait puis elle avait réussi à faire de la beauté avec ça. Ah, ça, c'est une définition de l'art qui n'est pas... Qui est
Vous
pas
nous donnez tellement envie. Mais pourquoi le titre, La Porte du Ciel?
La Porte du Ciel, ça fait référence... Ce livre-là, on a eu de la misère à le titrer. Mon éditeur et moi, pendant longtemps, j'ai voulu l'appeler « Tous les parfums de l'Arabie », qui est un passage de Shakespeare. Il lui disait « Non, trop obscur, ça parle pas de l'Arabie, laisse faire tout ça ». La Porte du Ciel, en fait, c'est un extrait de la Bible c'est un passage qui est juste avant ou juste après celui de l'échelle de Jacob, qui est un motif de courte pointe où on voit les anges qui descendent et qui descendent du ciel et qui remontent. Et c'est aussi un peu une métaphore de l'Amérique, en fait, qui, en ce temps-là, était vue comme une sorte de nouvelle Jérusalem, une sorte de pays des possibles, où tout était possible, justement, où on voulait essayer de recréer une... Puis qui, dans les faits, réussissait à se déchirer, puis qui n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc, ça me semblait une image intéressante.
Mesdames et messieurs, la voix très douce que vous entendez à l'instant, c'est celle de Dominique Fortier, qui était mon invitée spéciale aujourd'hui à l'émission Un livre découvert. Je vous rappelle qu'on lui doit Les larmes de Saint-Laurent, La porte du ciel et le livre aussi dont était venue nous parler Catherine Trudeau il y a quelques semaines, Du bon usage des étoiles. Vous restez avec nous, Dominique, parce qu'on va passer tout de suite à la rubrique Le classique de la semaine et c'est un titre que vous avez choisi.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Et ce classique-là, eh bien, c'est un bon vieux Victor Hugo. C'est L'homme qui rit. Remarquez, je dis le bon vieux Victor Hugo. Il n'empêche que c'est quand même le moins connu, du moins le moins glorifié de toutes ses œuvres littéraires, L'homme qui rit. Mais vous, c'est un livre qui vous fascine, Dominique Fortier.
Moi, c'est mon livre préféré de Victor Hugo.
Okay.
Je suis désolée qu'il n'y ait pas plus de gens qui le connaissent. Et donc, je poursuis ici mon œuvre d'évangélisation parce que je pense que ça doit être le livre que j'ai le plus offert et que j'ai le plus prêté. Je voulais apporter mon exemplaire ici aujourd'hui. Ouais. Je ne l'ai plus. Je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Ce qui est parfait. Non, ça veut dire que j'ai fait un autre converti. C'est un livre magnifique.
Vous avez lu Micheline Tremblay?
Cette
œuvre-là, honnêtement, moi non plus. Honnêtement, je ne l'ai pas lu. Alors, je me suis un petit peu intéressée.
Je vais essayer de vous
convaincre. Oui, c'est ça. Alors, justement, tiens, plutôt que je vous lise, moi, tout ce que j'ai trouvé, là, parlez-nous, vous. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ce livre pour me donner envie de me replonger, de me plonger dedans?
Je pense que c'était le livre préféré de Victor Hugo. De tous ses romans, c'était celui dont il était le plus fier.
Le plus fier.
C'est probablement celui qui a reçu les critiques les plus assassines à sa sortie. Les gens ont été d'une sévérité hallucinante envers lui. Je ne sais pas si je devrais citer ça, mais je vais le faire quand même. Barbé d'Orvilly disait Victor Hugo n'a montré dans son homme qui rit ni art, ni âme, ni nature humaine, barbouillade et enfigourie, éclairée peut-être ici et là de 5 à 6 pages gracieuses ou éclairantes tout au plus. L'homme qui rit, il coûte de le dire, pourrait déshonorer intellectuellement la vieillesse d'un homme qui n'a pas su se taire à temps. Oh, alors, mensonge, cruauté, c'est pas vrai, ne l'écoutez pas. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre qui est d'une modernité absolument étonnante, qui est peut-être la raison pour laquelle il a été accueilli avec autant de perplexité de la part de ses contemporains. Ouais. C'est un roman dont Victor Hugo dit que c'est un roman philosophique.
Ouais.
Pour moi, c'est un
roman... Il faut aller au-delà, je veux dire, de cet homme marqué par ce sourire et une cicatrice.
Oui,
on s'entend
bien sûr, le personnage...
C'est une métaphore au départ.
Le personnage de Gwynplaine, en fait, est celui qui a inspiré le personnage du Joker dans Batman. C'est un enfant qui, tout jeune, a été enlevé par des romanichels qui l'ont défiguré, qui lui ont fait un sourire qui va d'une oreille à l'autre. Et donc, on le promène de village en village pour exciter la pitié, ramasser des sous. Il va être recueilli par un vieil homme qui s'appelle Ursus et son chien qui s'appelle Homo. Et ensemble, qui s'occupe aussi d'une jeune aveugle, ensemble, ils vont faire les saltimbanques. Mais c'est, ça, c'est l'intrigue. Et je dirais que ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ça pourrait parler de n'importe quoi d'autre. Ouais. Ça serait aussi bon.
Il nous reste 2 minutes. Alors, allez-y. Qu'est-ce qui est important?
C'est l'écriture.
C'est l'écriture.
Victor Hugo dit que c'est un roman philosophique. Moi, il me semble que c'est un roman total. C'est-à-dire que c'est un roman qui est aussi de la philosophie, qui est aussi du théâtre. C'est un roman qui est plein de digressions foisonnantes, fascinantes, sur l'architecture, sur la noblesse anglaise, parce que ça se passe à la fin du 17e siècle. Mm-hmm. C'est un roman qui est brillant, qui est drôle, parce que Victor Hugo, on l'oublie, mais c'est un esprit d'une finesse extraordinaire. Et je pense que pour vous convaincre de le lire, je n'ai besoin que de vous lire le premier paragraphe, qui est à lui tout seul une sorte de bijou.
Il nous reste 2 minutes.
Il est tout
Allez,
petit.
On les a. Allez-y.
Alors, Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme, Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues. C'était l'homme qui avait baptisé le loup. Probablement, il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de l'or viettant. Ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. C'est formidable. Donc, il faut aller découvrir la suite, impérativement.
Dominique Fortier, merci beaucoup. C'était le classique de la semaine, L'homme qui rit de Victor Hugo, que nous avons revisité très rapidement, on s'entend. Très vite, est-ce que vous travaillez sur un bouquin en ce moment?
Je ne suis pas capable de vous répondre très vite. Ça veut dire peut-être. Ça veut dire j'essaie.
D'accord. Merci beaucoup, Dominique Fortier, d'être venu nous rendre visite ici.
C'est
et j'espère que vos livres vont disparaître comme des petits pains maintenant qu'on en a parlé ici à l'émission à Livre Découvert et que les gens vont se précipiter
sur l'homme qui rit aussi.
Et sur l'homme qui rit aussi. Merci beaucoup, Dominique Fortier. Au retour de la petite pause, je m'entretiens avec Micheline Tremblay.
Écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seil et ses invités.
Que je sois née d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Écrire pour ne pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire changer en mots pour me tenir le cœur au chaud. Que je vive 100 ans ou bien quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Écrire pour ne pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de lire, dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli. Écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Écoute en passant d'une oreille distraite ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Écrire pour ne pas mourir, écrire grimacer, sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire, habiller ma colère. Écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau, et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas mourir.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Bonjour Micheline Tremblay.
Bonjour.
Ça va bien?
Très très bien.
Je suis convaincue que si on demandait à la plupart des auteurs, de, parmi ceux que vous lisez ici en tant que bénévole et parmi ceux que je reçois à cette émission, est-ce que vous écrivez pour ne pas mourir? Il y en a beaucoup qui répondraient oui, comme vient de nous le chanter Anne Sylvestre. Qu'en pensez-vous?
Oui, on écrit pour ne pas mourir, mais c'est très difficile d'écrire.
Et c'était Louise Tremblay-Descienbres qui nous disait ça aussi justement la semaine dernière, qui disait « Oh, puis c'est vraiment du 7 jours sur 7 ». On l'oublie tout le temps, ça.
C'est du 7 jours sur 7 et je dirais qu'on a toujours ça derrière la tête. Même quand on n'écrit pas, on est toujours en train de penser à ce qu'on va écrire.
Oui, parce que vous-même, vous écrivez aussi.
Oui, un peu. Je ne me considère pas vraiment comme une auteure,
et,
mais
et,
j'écris.
Et pourquoi pas? Dès l'instant qu'on écrit?
Ah, peut-être. Mais disons que quand je lis justement des romans comme celui dont je vais vous parler
aujourd'hui,
tantôt...
Aujourd'hui, oui.
Que je trouve extraordinaire. Disons que je me trouve très petite à côté de ça.
Ah, que vous êtes modeste, que je reconnais bien là la modestie féminine souvent. Ah là 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 là. Alors parlez-nous de ce livre justement, le titre et l'auteur, s'il vous plaît, Micheline.
Oui, je lis beaucoup, mais c'est rare que j'ai des coups de foudre littéraires.
Ah.
Et j'en ai eu un cet été avec les livres d'Abla Faroud, oui, que j'ai rencontré tout à fait par hasard. Alors, j'ai commencé par lire le premier livre, Le bonheur à la queue glissante, un titre que je trouve extraordinaire.
J'espère qu'il est enregistré. Je ne sais pas s'il est enregistré.
Oui, je pense que oui.
Oui. D'accord.
Et c'était tellement bon que je me suis dit, ben le deuxième, ça ne se peut pas, il ne sera pas aussi bon, je ne serai pas aussi épatée. Eh bien, je me suis trompée. Et j'ai lu le troisième, j'ai été épatée encore. Et le quatrième, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, m'a encore séduit. Alors aujourd'hui, celui dont je vais vous parler, ça s'appelle « Le sourire de la petite juive ».
Mm-hmm.
Alors, ce qui est intéressant chez elle, c'est que chacun de ses romans adopte une structure narrative différente.
Okay.
Alors, pour « Le sourire de la petite juive », le roman se compose de plusieurs petits chapitres. Et chacun de ces chapitres-là s'intéresse à une personne qui habite la rue Hutchison. parce que l'auteur habite la rue Hutchison, alors elle se met à observer les gens et elle se dit, bien, je vais faire un roman à partir des gens que j'observe. Alors, il y a donc dans ces chapitres-là des hommes, des femmes, des gens de tous les âges, de tous les statuts sociaux, de tout acabit finalement, là, mm-hmm. des personnages très typés aussi. Et certains, comme Inda Rochelle, la petite juive qui est dans le
en
titre,
question, oui.
et Françoise Camiran, reviennent plusieurs fois, alors que d'autres ne reviennent qu'une ou deux fois, mm-hmm. c'est tout.
D'ailleurs, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit « J'ai adoré ce livre, et la seule chose qui m'a frustrée, c'est que je ne retrouve pas la plupart du temps ceux dont il est question. »
C'est quand même un roman.
Oui, oui, c'est ça. Mais c'est les gens disent, mais pourquoi on la retrouve pas avec, avec Madame Camiran ou avec la petite juive? Enfin, bon, je referme la parenthèse. Vous, ça ne vous a pas gêné?
Non, pas du tout.
Bon.
Ben, cette Françoise Camiran, qui mm-hmm. revient
régulièrement,
fréquemment,
oui.
c'est également dans le livre une auteure qui est aussi en train d'écrire un livre qui porte sur les gens de la rue Hutchison.
Ah, okay.
Alors, l'auteur l'affiche d'ailleurs nettement parce qu'elle dit « Un matin, elle s'est levée, a ouvert un dossier tout neuf, a tapé « Portrait des gens de ma rue », titre provisoire, et c'était parti. » Pourtant, Camiran, à ce moment-là, pourrait devenir une narratrice. Mais non, elle ne devient pas une narratrice. Elle demeure un personnage. Et c'est ça qui est intéressant dans la structure narrative. Elle n'est pas la narratrice et les personnages où l'on parle d'elle mm-hmm. ne sont pas écrits au « je », mais restent écrits avec une distance.
Une distance. Okay.
Et c'est donc un récit dans le récit, une espèce de mise en abîme qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les tableaux. Un peintre qui est en train de faire un tableau, et dans le tableau, qu'est-ce qu'il est en train de peindre? Ben, c'est lui qui est en train
c'est
de
ça,
peindre.
C'est ça, l'autoportrait, c'est ça,
c'est
exactement.
Ça. Alors, c'est un peu la même structure qu'on retrouve ici.
Okay.
Et je vous donne un exemple. Elle dit, pour Françoise, alors vous voyez l'espèce de distance qu'elle prend, pour Françoise, l'école fut une délivrance. Elle apprit à lire à une vitesse affolante, tellement vite et bien que la maîtresse lui passait des livres en douce. Si l'auteur avait voulu passer la main de la narration à Françoise, elle aurait écrit, non pas pour Françoise, mais pour moi.
Pour moi, bien sûr.
L'école fut une délivrance. J'appris à lire à une vitesse affolante, tellement vite que ma maîtresse me passait. Eh bien non, elle garde cette distance-là pour montrer justement qu'il y a un récit dans le récit. Mm-hmm. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Alors, Françoise Camiran écrit sur les personnes qui habitent sa rue, des gens qu'elle connaît plus ou moins. Et elle ne fait pas que raconter une histoire, mais elle cherche, et c'est ça qui est intéressant, à entendre, et là je la cite, « entendre ce qui bout en chacun pour comprendre comment et par quel chemin une personne est devenue ce qu'elle est mm-hmm. et pourquoi elle n'est pas devenue ce qu'elle aurait pu être. »
OK, très intéressant.
« Ou ce qu'elle aurait aimé être. »
J'ai toujours eu
envie d'être passe-muraille, passer à travers les murs que chacun se construit.
Ouais.
Elle veut donc creuser la surface pour atteindre l'essence de la personne.
Mm-hmm.
Et ça, elle réussit à le faire en quelques pages.
Oui.
Je cite un exemple, elle parle de Willa Coleridge, je vais vous citer l'extrait et vous allez voir qu'avec quelques lignes, tout de suite, on a une image non seulement de la personne telle qu'elle est physiquement, mais telle qu'elle est intérieurement.
Okay.
Alors, je cite, « Elle était née noire, ça oui, mais elle avait choisi le sourire comme mode de vie, comme mode de combat contre la grisaille et les difficultés de l'existence, comme mode d'ouverture aux autres. Le sourire comme porte d'entrée à un lien possible. Petite déjà, elle avait fait ce choix d'alléger son cœur par le sourire et ça lui avait facilité la vie. Avec le temps, c'était devenu sa manière d'être, de se dire « je souris, donc je suis ».
Je suis.
Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Surtout qu'on parle bien du sourire de la petite juive, là.
Non, là, non. C'est un autre personnage.
C'est un autre personnage.
C'est Willa Coleridge.
Que...
c'est un autre personnage qu'elle décrit comme ça.
Vous savez que Allez-y. Je vous laisse... OK, alors, on continue. Et puis, cette petite juive-là, parce que j'aimerais bien qu'on y arrive, parce qu'en même temps, donc, on suit cette petite fille qui est d'une famille juive assidique.
Exactement, oui. Et ce qui est intéressant, c'est, avec la petite juive, c'est le seul endroit où le texte est écrit au « je ». Et le subterfuge que l'auteur utilise, c'est le subterfuge du journal. Alors, un journal, c'est écrit au jeu. Ouais. Et c'est par ce moyen-là qu'on parvient à entrer dans la communauté hassidique.
Ouais, 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 ouais.
Parce que, comme elle le dit, ça fait 39 ans qu'elle reste là et jamais elle n'a pu pénétrer cette communauté-là. Elle n'a jamais échangé une parole, jamais un sourire. Mais là, par l'intermédiaire du journal, ouais, la petite juive, elle réussit à pénétrer ce monde-là.
Ouais, ouais. On a un petit extrait, est-ce que ça vous tente? D'accord, justement,
oui,
parce que c'est un moment donné où c'est la petite juive en
d'accord,
question
oui,
qui nous parle.
Le journal de Hinda Rochelle. Bonjour mon journal. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit parce que je ne suis jamais seule à la maison. Mes frères les plus jeunes jouent dans la cour arrière, le bébé dort et mon grand frère et mon père ne sont pas encore rentrés. Je sens que je vais pleurer si je ne peux parler à personne. Heureusement, j'ai mon journal. Ma mère est partie acheter un chaudron pour la viande. Par ma faute, ma mère a jeté tout ce qu'il y avait dans le chaudron et le chaudron aussi, parce que je l'avais contaminé en mettant du beurre au lieu de la margarine. Quand j'ai vu ma bêtise, mon Dieu, quelle horreur! C'était vraiment par distraction, que Dieu me pardonne. J'ai fait semblant de rien. J'ai continué à brasser le bœuf émincé comme maman me l'avait demandé. J'ai ouvert toutes les fenêtres et la porte de la cuisine. Et je priais pour que personne ne s'en aperçoive. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Jeter un beau chaudron avec un fond épais, avec toute la bonne viande qu'il y avait dedans et les bons légumes, et la cuillère en acier pour remuer, c'est du gaspillage. Mais l'odeur du beurre sur la viande est arrivée, malgré mes prières, jusqu'au nez de maman. Elle était dans la chambre de mes frères en avant de la maison, en train de s'occuper du bébé qui pleurait. Elle a senti le mélange défendu. Les autres gens auraient trouvé cela bon. Moi aussi, si j'avais été élevée par des goyes. Mais c'est ça le problème. Nous, on n'est pas habitués.
C'est sympathique, hein?
Ouais.
On parle, je voudrais le rappeler pour les gens qui viendraient de se joindre à nous, on parle du livre Le sourire de la petite juive de Abla Faroud. Faroud s'écrit F-A-R-H-O-U-D. C'est important de le préciser. Vous aviez quelques mots à nous dire en conclusion, Micheline Tremblay.
Oui, c'est que partout dans le livre également, il y a plusieurs réflexions sur la lecture et l'écriture.
Ah.
Et ça, c'est intéressant. Sur la lecture, par exemple, elle dit « La lecture permet d'aller au tréfonds de soi avec les mots des autres, qui se farfouillent les entrailles pour trouver un sens à la vie avec des mots infiniment beaux, presque de la poésie. » Et c'est ça aussi son livre à elle. C'est des mots infiniment beaux, c'est presque de la poésie. Et pour elle, l'écriture offre l'immense plaisir de faire croire, de raconter, de partager ce qu'on imagine. Et en dernier, l'art en général et l'écriture en particulier avait toujours été une énigme pour lui. Jamais personne n'avait éclairci ce mystère qui fait que quelques mots rassemblés forment un tout et nous transporte dans un autre monde.
Mm-hmm.
Et Faroud, je trouve qu'elle est bonne pour ça. Avec quelques mots rassemblés, tout à coup, on voit surgir un portrait, on voit surgir un personnage,
mm-hmm,
pas seulement au niveau physique, mais dans son intériorité.
Le sourire de la petite juive, c'est signé Abla Faroud et qui m'a promis qu'elle allait venir faire l'émission un jour. Mais là, elle est en correction sur son prochain roman et elle ne pouvait absolument pas venir. Mais je vous remercie beaucoup, Micheline Tremblay, d'être venue nous en parler.
Ça m'a fait plaisir.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Ça, c'est un petit peu la bande-annonce pour la semaine prochaine, alors qu'à la place de Micheline Tremblay viendra s'asseoir... Non, d'ailleurs, je vous dis, la semaine prochaine, c'est pas vrai. Ce sera la première émission du mois de janvier, le 7 janvier prochain, que je recevrai Thibaut Temmermann. J'ai un petit peu de mal à penser que la semaine prochaine, je prendrai un petit peu de vacances. Donc, ce sera le 7 janvier. Thibaut Temmermann qui viendra nous parler de l'ultime partie de Anna Shevchenko. Thibaut est un garçon qui poursuit et qui les rattrape très bien des études en journalisme. Et lorsque des livres nous permettent de pouvoir tomber à la fois dans le roman, mais aussi dans l'histoire, il adore ça. Et là, c'est exactement cela. Un petit résumé vite fait. Nous sommes au lycée. Tony avait l'habitude de lancer des défis à trois de ses camarades, jusqu'à ce drame qui a mis fin au jeu du quatuor et les hante depuis. Quel drame, vous lirez. 25 ans plus tard, alors qu'ils se sont tous perdus de vue, Tony décide de relancer une ultime partie. Avec des enjeux bien plus importants cette fois, son objectif, lever le voile sur une page sensible de l'histoire. En 1945, alors que la guerre s'achève, Churchill, Roosevelt et Staline se retrouvent à Yalta. En 8 jours, ils divisent le monde, ils créent une nouvelle carte de l'Europe. Mais qu'ont-ils fait d'autre? C'est ce que les joueurs vont découvrir. Alors c'est vraiment, il m'a dit, c'est un livre absolument fascinant de Anna Shevchenko et je vous propose qu'on en écoute un extrait tel que lu par Thibaut Temmerman.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort.
On voit trop de gazon sur la première photographie, trop de ciel. Et les trois garçons qui regardent l'objectif font plus petits et plus jeunes que leurs 16 ans. C'est le dernier jour d'école. Les cravates sont desserrées, les blazers retirés, mais les sujets ne sont pas détendus pour autant. Il y a une raideur dans la façon dont l'un passe son bras autour des épaules d'un autre, la grippant fermement. Une ombre dans le regard brun du troisième, dans ses sourcils haussés, comme s'il essayait de poser une question, qui leur donne un air inquiet et nerveux. Je ne suis pas sur la photo. Je prends un instantané du jour qui marque la frontière entre l'avant et l'après dans nos vies. Ils l'ont peut-être dissimulé tout au fond d'une boîte dans un coin de leur grenier, l'ont peut-être déchiré, roulé en boule, réduit en miettes, il y a une éternité, mais il reste gravé dans leur mémoire comme il l'est dans la mienne. Le second cliché est l'un de mes biens les plus précieux. Il ne s'agit ni d'une photo officielle, ni d'une de celles publiées en première page des journaux, dans les manuels scolaires et ouvrages de référence, ni de celles qui trônent sur le bureau de mon père. Elle a été prise il y a plus de 60 ans par une personne de petite taille, postée derrière la première ligne de photographe.
Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain.
Thibaut Temmerman et puis M. Philippe Léotard qu'on entendait dans du Léo Ferré à l'instant, mais le livre dont il sera question, c'est l'ultime partie de Anna Shevchenko.
Des nouvelles et des livres.
C'était à la fin du mois de novembre dernier, le 27 plus précisément, que Mme P.D. James nous a quittés. Mme P.D. James, née le 3 août 1920 à Oxford, Phyllis Dorothy James, qui a dû quitter l'école dès l'âge de 16 ans pour s'occuper de son jeune frère et de sa sœur. Elle a été mariée en 1941 à un étudiant en médecine qu'elle a vu partir à la guerre. C'est un conflit qui le traumatise au point qu'il ne parvient jamais à mener une vie normale, de sorte que P.D. James a élevé seule ses deux filles. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, elle travaille pendant 3 décennies dans la fonction publique, d'abord dans le système de santé, puis dans les départements crime et police scientifique du ministère de l'Intérieur. Alors elle a beaucoup puisé dans ses expériences pour nourrir son œuvre, même si elle a toujours regretté d'avoir attendu la quarantaine pour commencer à écrire, puisqu'elle avait 40 ans quand elle a écrit son premier roman. Il a été publié en 1962. Il s'appelait « À visage couvert » rapidement, ça a connu un espèce de succès d'estime. Mais il faut attendre 1980 avec « La meurtrière » pour qu'elle accède vraiment à une popularité internationale, P.D. James. Dès lors, écoutez, le succès ne s'est plus jamais démenti jusqu'à son tout dernier livre qui s'intitule « La mort s'invite à Pimberley », sorti en 2011, qui est un livre que nous avons, qui a été enregistré et qui est disponible au SQLA. De quoi s'agit-il dans ce livre? Eh bien, c'était une grande admiratrice de Jane Austen, Madame P.D. James, et Elle avait imaginé dans ce livre une suite à Orgueil et préjugés, rien de moins. C'est ce que précise son éditeur Fayard, qui salue son talent et se souviendra d'une personnalité chaleureuse et enthousiaste. Quand on lui demandait comment elle faisait pour écrire, vu son âge vénérable, elle répondait « Oh, avec le grand âge, ça devient difficile, l'inspiration met plus de temps à venir. Mais le truc, quand vous êtes écrivain, c'est que vous avez besoin d'écrire. » Elle disait aussi « Je pense que tant que je suis en vie, je dois écrire. Il y aura un moment pour arrêter, mais ce sera probablement quand, pour moi aussi, ce sera fini. » J'en reviens à cette chanson que je vous ai diffusée au tout début de cette deuxième demi-heure de l'émission « Un livre découvert, écrire pour ne pas mourir » de Anne Sylvestre. Alors, quelques titres disponibles de Madame P.D. James au SQLA. L'amour s'invite à Pimberley. Ça a été enregistré par l'INCA. Aussi, Une certaine justice, enregistrée par Point par Point. Et puis, La proie pour l'ombre, Le phare et Meurtre en soutane, enregistré par Vues et Voix.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, laissez-moi d'abord vous reciter, si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note, les titres que nous avons à votre disposition à la BANQ, les titres de Dominique Fortier, qui a été mon invité aujourd'hui, mon invité spécial. Alors, trois titres, Du bon usage des étoiles, Les larmes de Saint-Laurent et La porte du ciel, Dominique Fortier, Fortier, comme ça se prononce. Et puis, je voudrais aussi vous reciter quelques titres de Martin Michaud, dont nous a parlé notre toute première invitée à cette émission, Louise Boulanger. J'espère que je ne me trompe pas. C'était bien Boulanger, c'est ça, je ne sais même plus si c'était Bélanger ou Boulanger. C'est bien Madame Boulanger qui nous appelait de Québec pour nous faire profiter d'un livre de Martin Michaud qui s'appelle « Sous la surface ». Et il y a d'autres livres de Martin Michaud qui sont tous dans le genre polar. La chorale du diable, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, j'adore ce titre. Et puis aussi Je me souviens, qui est né juste avant le livre Sous la surface. Il vient d'en sortir un autre, mais je ne vous en parle pas parce que de toute façon, il n'est pas encore disponible. Alors, j'ai aussi d'autres titres à vous proposer qui viennent juste d'arriver au mois de novembre au SQLA. D'Isabelle Grégoire, Saut au galant ou Saut au galant, je ne sais pas comment on devrait le dire, S-A-U-L-T, trait d'union, A-U, trait d'union, galant comme un galant, d'Isabelle Grégoire, comme ça se prononce. Isabelle Grégoire, oui, c'est la journaliste et la globe-trotter qui a collaboré notamment au magazine L'Actualité et Châtelaine, ainsi que L'Express au Québec. Et donc, elle nous raconte, là, c'est son premier roman, une histoire assez incroyable. On parle de l'arrivée de 12 familles de réfugiés colombiens qui bouleversent la vie d'un petit village québécois qui s'appelle Saut-au-Galant ou Saut-au-Galant. Et quelques mois plus tard, on assiste à la disparition d'Emilio Mondragon, qui est un petit Colombien qui est âgé de 10 ans et qui avive des tensions entre les villageois et les nouveaux venus tout en attisant de vieilles rancœurs. Est-ce un accident? Est-ce une fugue? Est-ce un enlèvement? Qu'est-il arrivé à cet enfant? D'inquiétantes lettres anonymes brouillent les pistes et même, on se demande, et si on avait affaire à d'anciens bourreaux? Alors au village, tout le monde se pose des questions et puis on commence à se monter les uns contre les autres. On commence évidemment, là il y a la suspicion qui rentre là-dedans. Bref, c'est fort intéressant, une critique de lecteur, un beau texte sur l'intimidation, la difficulté d'accueillir les autres et surtout sur les secrets qui peuvent briser des vies. On ne peut terminer ce livre sans être touché et surtout en se questionnant sur notre tolérance face aux autres. Critique dans la presse, des reportages, ça ne suffit pas toujours pour rendre compte d'une réalité. Par exemple, celle de la cohabitation entre réfugiés colombiens et natifs d'un petit village de Chaudière-Appalaches. C'est justement le sujet de Saut au galant, premier roman de la journaliste québécoise Isabelle Grégoire, qui se révèle une vraie auteure. On change de décor complètement. Envie d'aventure? Pousseux. 60 récits de bord de route. Partez en autostop aux quatre coins du monde, nous dit-on avec ce recueil de récits colligé par les journalistes Hélène Mercier et Philippe Marois. Alors on a demandé à des personnalités très connues ou un peu moins connues de nous raconter des histoires lorsqu'ils faisaient du pouce. Alors par exemple Michel Barrette, Bernard Landry, Patrick Lagacé, Pierre Brassard, Micheline Lanctot, Edith Cochrane, en tout cas toutes sortes de monde. Ils ont retenu les meilleurs moments, les meilleures histoires et ils ont colligé tout ça dans ce récit qui s'appelle « Pousseux ». 60 récits de bord de route. C'est vraiment très sympathique, synonyme d'aventure et de liberté. Et puis enfin, Le conseiller dans l'ombre des Tudors d'Hilary Mantel, M-A-N-T-E-L. Nous sommes en Angleterre en 1520, sous le règne des Tudors. Le roi Henri VIII n'a pas de fils pour lui succéder. Situation préoccupante qui pourrait entraîner le pays sur le chemin de la guerre civile. Aussi décide-t-il de divorcer de Catherine d'Aragon, avec qui il est marié depuis plus de 20 ans, pour épouser Anne Boleyn, dont il est tombé amoureux fou. Et son conseiller, le cardinal Wolsey, W-O-L-L-S-E-Y, échouant à obtenir l'accord du pape, un jeune homme plein de fougue et de ressources, eh bien celui-ci va peu à peu rentrer dans les bonnes grâces du roi. Il va l'aider à vaincre l'opposition. Et Le conseiller du roi Henri VIII s'appelle le cardinal Wolsey, et lui, il échoue à obtenir l'autorisation pour marier Anne Boleyn avec Henri VIII. Mais arrive le bonhomme, le Thomas Cromwell, qui lui est un petit futé, qui va rentrer dans cette famille-là comme un couteau dans le beurre et qui va prendre une place incroyable parmi les Tudors. Évidemment, cet homme-là est un témoin incroyable pour les amoureux d'histoire. Et c'est exactement ce que nous raconte Hilary Mantel dans Le conseiller dans l'ombre des Tudors. Un best-seller soit, nous dit-on, dans Bibliops, soit, mais le roman superbement écrit n'a rien d'une grosse machine insipide faite pour sauter dès la mise en rayon en tête des meilleures ventes. Dans Libération, on disait, la saga de Hilary Mantel est une noble étoffe, légère et solide, admirablement servie par la traduction de Fabrice Pointeau et le soin de l'éditeur. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots en cette dernière émission d'un livre découvert pour l'année 2014. L'émission, vous la retrouverez dès le 7 janvier prochain. Il y aura aussi des émissions en reprise de celles que vous avez préférées pendant les vacances de Noël. Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'avoir été là. Il me fera plaisir de vous retrouver le 7 janvier. Bonne lecture à vous toutes et vous tous. Et si vous aussi, vous voulez partager une lecture, si vous êtes abonné du SQLA, n'hésitez pas, contactez-nous 1-800-361-0635, poste 220. Allez, salut.